بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شفاء الإسلام. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité ce soir donc de reprendre nos programmes concernant, ça s'approche un petit peu, nos programmes concernant la fin des temps et concernant Ad-Dajjal. Et on avait vu que le deuxième grand signe de Qiyama après la venue d'Imam Mehdi, c'est l'apparition de Ad-Dajjal. Et pour résumer un petit peu ce qui a été dit jusqu'à maintenant, on avait commencé par une description physique de Dajjal. On avait commencé par une description physique de Dajjal. On avait expliqué dans quelle situation, quelle sera la situation de la Ummah, quelle sera la situation du monde à la venue de Dajjal. Et on a bien compris qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient réunis pour que cette créature fasse son apparition sur ce dunya. Et on avait vu également que dans un hadith, le prophète alayhi salatu wasalam explique que c'est une créature qui existe déjà et que certains sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in était une fois embarqué donc sur un bateau, et donc le bateau avait fait naufrage, et donc ils ont atterri dans un endroit près du Nil, et là ils avaient rencontré une créature étrange qui les avait amenés vers une créature monstrueuse qui était attachée, qui était enchaînée, et cette personne avait demandé différentes questions aux sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in concernant des signes particuliers sur certaines régions d'Arabie ou extérieures à l'Arabie, et cette personne à la fin a demandé est-ce que le prophète parmi les Arabes a déjà été envoyé, et lorsqu'il a vu que la réponse était positive, il a annoncé à ses sahaba que bientôt je vais apparaître dans ce monde. À partir du moment où ce prophète est là, ça veut dire que ça va être imminent, je vais avoir l'autorisation de commencer ma mission. Et à la fin il explique aux sahaba que lui c'est Ad-Dajjal. Donc ce hadith qui est très connu comme Hadith al-Jassasa, nous prouve que Dajjal est une créature d'Allah Azza wa Jal, c'est un être humain, un aspect qu'on avait vu à travers la description physique, un aspect pas monstrueux, mais quelqu'un de très imposant physiquement, et également, malgré le fait qu'Allah Azza wa Jal va lui accorder des pouvoirs surnaturels, Dajjal, alayhi la'natullah, ne peut cacher, ne peut changer certains signes en lui. On va voir aujourd'hui, Inch'Allah, quels seront les pouvoirs qu'Allah va lui accorder. Mais malgré le fait qu'il aura des pouvoirs, il pourra faire des miracles, il pourra ressusciter des morts, guérir à des gens qui sont malades, hein, et essayer de faire croire aux gens que c'est lui, Dieu, qui donne la vie, qui donne la mort, qui a tous les pouvoirs. Mais malgré tout cela, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et parmi les choses que Dajjal ne pourra pas faire, c'est changer ses traits physiques. L'apparence qu'il a, les deux signes qui permettent à un mu'min de reconnaître qu'il est Dajjal, c'est-à-dire son œil. Qui est, donc il est borgne donc d'un œil, l'œil droit qui est fermé et l'œil gauche qui est apparent, qui sort de son orbite, donc les deux yeux sont anormaux, et le signe kafir qui est écrit sur son front, malgré les pouvoirs qu'Allah lui donnera, ces deux choses-là, il ne pourra pas le faire. Parce qu'Allah Ta'ala ne lui donne pas la possibilité de changer ces deux signes. De même, petite parenthèse, lorsque on entend que Shaitan aussi, Allah lui accorde certaines possibilités de se. Les shayatines peuvent se transformer, peuvent aller d'un endroit à l'autre à une vitesse extraordinaire, etc., etc. Les shayatines peuvent ennuyer des personnes. Mais notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit quelque chose de très très simple. Si une personne couvre un récipient en disant Bismillah, Shaitan ne peut entrer, ne peut agir sur ce récipient. Alors qu'on peut se dire que se transformer en d'autres créatures, prendre des apparences ou perturber une personne, passer d'un continent à l'autre à la vitesse de l'éclair, ça a l'air d'être des choses beaucoup plus complexes. Mais cette chose aussi simple que découvrir un objet ou alors un récipient qu'on a couvert en disant Bismillah, Shaitan ne peut le faire. Ça veut dire qu'Allah lui accorde certains pouvoirs, mais en même temps il y a des limites. Ce n'est pas un pouvoir illimité. D'accord ? Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit que tatru ma bayna ash-shayatin wal insi dhikru ismillah, dhikru ismillah. Lorsqu'un musulman dit Bismillah, les shayatin ne peuvent plus voir la personne. C'est-à-dire que quand une personne se change, une personne prend un bain, etc., enlève ses vêtements, la personne doit dire Bismillah afin que les shayatin ne peuvent pas le voir. Donc c'est des choses simples qui prouvent la limite de ces pouvoirs qu'on pourrait qualifier en guillemets de surnaturels. D'accord ? Dajjal aura des pouvoirs, mais il ne peut changer ses deux signes, son apparence physique concernant ses yeux et le signe qu'il y a sur son front. D'accord ? Et la dernière chose qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est des signes, hein, des signes un peu généraux avant la venue d'Ajjal, mais ça on ne va pas revenir dessus. Et on avait vu que parmi les signes probants de la venue imminente de la venue de Dajjal, c'est la conquête de Constantinople, la conquête de Constantinople. Et on avait expliqué comment cela allait se dérouler. On avait vu également, c'est un signe hein, qui va apparaître un jour, que les gens vont venir habiter au Beit al-Maqdis. Les gens vont venir, cette ville va se développer et les gens vont venir habiter à, en Palestine donc, à Beit al-Maqdis. Donc on s'était arrêté à là avant les vacances. Autre signe évident avant la venue de Dajjal, une famine, une disette qui va durer 3 ans. Je crois qu'on avait juste abordé le sujet, mais on n'avait pas développé. Dans un hadith, notre prophète alayhi salatu wassalam explique que inna qabla khuruj ad-dajjal thalatha sanawat shidad. Il y aura 3 années extrêmement difficiles avant la venue de Dajjal. C'est-à-dire, ça c'est un signe évident. Si aujourd'hui Dajjal, si quelqu'un dit que Dajjal est là, Dajjal est déjà présent, on ne peut pas le croire. Parce qu'il faut qu'il y ait une famine de 3 ans. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'évident, ça. Le fait qu'il y ait une famine de 3 années, et les hadiths ne précisent pas une région du monde. Apparemment, c'est quelque chose de général. Sachant que la venue de Dajjal va être à la fin de cette 3e année de famine où il n'y aura plus rien à manger, plus rien à boire, et Dajjal va parcourir tous les continents pour donner à manger et donner à boire et donner des richesses aux gens. C'est-à-dire que la totalité des gens certainement seront éprouvés par ces difficultés et ils trouveront une aide, un semblant d'aide par la venue de Dajjal. Alors le prophète a dit que la première année, Ya'murullahu samaa'a fi sanatil ula an tahbisa thulutha matariha. La première année, Allah Azza wa Jal ordonnera au ciel de retenir le tiers de la pluie. Donc le tiers de la pluie, il y aura moins de pluie, donc moins de récolte. Et Allah Ta'ala ordonnera à la terre de retenir le tiers de ses récoltes également. C'est la première année. La deuxième année, la disette va être encore plus compliquée. Ce sera thulutay. Allah Ta'ala va ordonner au ciel de retenir 2/3 de l'eau et la terre retiendra 2/3 de ses récoltes. C'est-à-dire qu'il y aura 1/3 de nourriture qui est sur le quota mondial normalement. C'est 33% de ce que la population mondiale a besoin pour vivre normalement comme il vit maintenant. Et la troisième année, Allah Ta'ala va ordonner au ciel donc de ne plus pleuvoir du tout et la terre, toutes les terres deviendront stériles. Il y aura donc une famine, plus rien à boire et plus rien à manger. Le prophète Hassan dit que وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَلَا تَمْبُدُ خَضْرًا. Il n'y aura plus rien qui va pousser. فَلَا يَبْقَى. Le prophète dit qu'il n'y aura rien, tout ce qui sera n'importe quelle chose, n'importe quel voilà, animal à sabou, c'est un animal à sabou, même les animaux, les chèvres, les cabris, les moutons, etc., ils vont tous mourir. Donc plus de culture, plus de bétail non plus et plus d'eau. Et dans un hadith un peu plus détaillé, le prophète alayhi salatu wassalam explique que le ciel ressemblera la terre ressemblera à du cuivre. Le cuivre, c'est un métal, bien sûr, où il n'y a rien qui peut pousser. Et la terre sera certainement chaude comme du cuivre. Le ciel sera comme du verre. Il n'y aura pas un nuage, il n'y aura pas une goutte de pluie qui tombera du ciel. Et les gens vont mourir les uns après les autres de faim et de fatigue. Et à ce moment, il y aura de plus en plus de corruption et surtout de plus en plus de meurtres. Les gens vont s'entretuer pour trouver à manger. Ça fait un peu des scénarios de films un peu catastrophiques, mais c'est une réalité ce qui va arriver avant la venue de Dajjal. Et voilà encore le hadith précise que les gens vont s'entretuer. Alors on avait demandé, les sahabas avaient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais au prophète d'Allah, comment les mu'mines, les adorateurs d'Allah vont-ils faire pour survivre? Et là le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam donne une réponse qui dépasse l'entendement, une réponse qui nous prouve bien qu'à ce moment-là, dans ces années-là avant la venue de Dajjal, ce n'est plus les mêmes lois physiques qui vont gérer ce dunya. Il y a des choses qui vont se passer qui vont à l'encontre de toutes les lois physiques, de tout ce que nous percevons comme étant cohérent et logique. Le prophète alayhi salatu wassalam répond aux sahaba lorsqu'il pose la question sur la nourriture des mu'minines. Il dit que فما يعيش الناس في ذلك زمن؟ قال التهليل والتكبير والتحميد ويجزي ذلك عليهم مجزاء الطعام. فهمتي que les gens vont dire لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله et ces أذكار ces ذكرullah vont remplacer la nourriture. Ces ذكرullah vont remplacer la nourriture. En commentaire les ulama rahimahumullah disent que c'est exactement les mêmes subsistances, on va dire la même nourriture, on pourrait dire en guillemets, hein, la même chose qui fait vivre les malaïkas. Et ça, ça prouve que le niveau de iman des mu'minines, des gens qui ont foi en Allah, à cette époque sera vraiment, hein, aura atteint vraiment un paroxysme, un très 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 haut niveau. Le prophète a dit dans le hadith que يجزي المؤمنين يومئذ من الجوع ما يجزي أهل السماء. Les gens se suffiront de ce que les gens des cieux ont besoin, c'est-à-dire ce que les malaïkas ils consomment, en guillemets consomment, ils ont besoin pour vivre, c'est le tahlil, le tasbih et le taqdis. Le dhikrullah suffira pour faire vivre les gens. Hada. Et dans le hadith, on précise même ta'amul malaïka. Les êtres humains auront la même subsistance que la subsistance des anges. Ce sera les tasbih et le dhikrullah ta'ala. Alors, bien sûr, quand on entend ce genre de texte, de hadith, hein, on a cité volontairement plusieurs sources, plusieurs hadiths pour prouver que ce sont là des informations qui sont authentiques. Là, on a besoin de faire appel au ilmul ghaib, la foi en l'invisible. Si notre prophète alayhi salatu wassalam nous a annoncé que les choses vont se dérouler de la sorte à la fin des temps, on doit avoir une conviction inébranlable sur le fait que notre prophète alayhi salatu wassalam nous l'a annoncé, et donc c'est une vérité. Car il n'y a pas eu un prophète avant le prophète sallallahu alayhi wasallam qui avait eu de la part d'Allah autant de science, autant de descriptions, de précisions sur la fin des temps, la venue de Dajjal, la venue de Gog et Magog et tous les signes qui vont précéder la fin du monde, la destruction de ce dunya. Donc ça c'est un signe évident, une famine, une disette qui va durer 3 ans, et les gens qui auront iman de leur cœur, ils vont survivre par le tasbih. Et les ulama rahimahumullah disent que ces mu'minin qui vont vivre par le tasbih, ce seront les meilleurs musulmans de cette époque. Ça prouve le degré de iman de ces gens à cette époque. Et vous savez que à cette époque là il y aura plein d'événements qui vont à l'encontre de la logique. Quand on verra par la suite que lorsqu'il y aura vraiment les affrontements, il y aura des gens qui vont se cacher derrière un arbre, hein, d'accord, et l'arbre va dire « Oh mu'min, l'ennemi est caché derrière moi ». Ça c'est des choses qu'on ne peut pas, si vous racontez ça à quelqu'un qui n'a pas iman ou quelqu'un qui a juste le quota minimum, hein, le smic en termes de iman, ben il comprendra pas, ça pourra même mettre son iman en danger, hein, il pourra se dire que oui mais ça c'est des histoires, c'est des fables, c'est des choses qui ne sont pas acceptables. Mais il faut comprendre qu'à la fin des temps, les choses vont changer. Parce que le monde de l'invisible rencontre le monde du visible. Dajjal, Al-Mahdi, Gog et Magog, la bête qui va sortir du mont Safa, ce sont des créatures qui n'habitent pas dans le monde des vivants. Ce sont des créatures qui n'appartiennent pas vraiment, à part qu'on va dire Dajjal qui est un être vivant, et quand il va mourir, il y aura du sang qui sort, donc physiquement il nous ressemble, hein, on va dire ça. Mais ce sont des choses, des créatures qui sont en rapport avec l'yawm il-akhir, l'au-delà. Donc c'est l'invisible, le monde, certaines notions de l'invisible qui rencontrent ce dunya, et donc les règles vont changer. Les règles vont changer, ces signes-là auront lieu à la fin des temps. Hada. Autre signe évident, lorsque Dajjal apparaîtra, Dajjal apparaîtra à un moment où la majorité des gens ne penseront plus à Dajjal. Lorsqu'une majorité de personnes vont oublier même les ahadiths, les histoires, les récits concernant la venue de Dajjal. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique, hadith de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, qu'il dit, alayhi salatu wa sallam, yakhrujud Dajjal fi khifatin min ad-din wa idbarin min al-ilm. Que lorsque Dajjal va apparaître, les gens auront peu de din, les gens auront une faible pratique de la religion et les gens auront peu de science. Bien sûr, à l'exception de cette poignée de mu'mines, de cette poignée de musulmans sincères qui auront atteint le plus haut degré de iman, c'est-à-dire ces personnes, Iqbal Dampa, c'est-à-dire ces personnes qui seront prêtes pour affronter Dajjal, ces personnes qui seront prêtes pour prendre leur épée ou leurs armes, quelles que soient les armes à cette époque, pour affronter Dajjal. Eux, ils seront là, et on verra par la suite que les meilleurs des mu'minines à cette époque seront prêts de Baytul Maqdis. Mais sinon, la majeure partie des gens seront dans l'insouciance lorsque Dajjal apparaîtra. les gens ne parleront plus. Allah fera en sorte que les gens vont oublier Dajjal. Parce que si chaque personne, chaque être humain, à la venue de Dajjal, il sait exactement comment il est, qu'est-ce qu'il va dire, comment il sera, qu'est-ce qu'il va annoncer en premier, quelles seront les étapes de sa mission, ben tout le monde reconnaîtra cet homme. Mais Allah Ta'ala fera en sorte que les gens seront dans un, on dirait pas dans un sommeil, mais dans un certain laxisme de la pratique de la religion et peu de sciences religieuses, ce qui fait que les gens vont plutôt être impressionnés par les miracles qu'ils vont faire, et surtout les gens seront dans la peine, les gens seront dans une grande difficulté lors de la venue de Dajjal, ce qui fait que lorsqu'il apportera des choses, il apportera des bienfaits, des barakas, les gens qui n'ont pas la foi en Allah et son prophète, ou qui n'ont pas eu la foi nécessaire, la foi suffisante, les gens malheureusement vont tomber dans le piège de Dajjal. Et le prophète alayhi salatu wasallam dit même qu'il y a même des mu'mines, des gens qui ont la foi de leur cœur, mais ils ont l'impression, ils sont persuadés d'être de vrais mu'mines. Ils savent qu'il y a Dajjal et par curiosité, ils iront voir Dajjal. Et quand ils verront des miracles, hein, des choses qu'ils n'ont jamais vues, qu'ils n'ont jamais imaginées, malheureusement, ils vont se rendre compte que leur foi n'est pas aussi solide qu'ils ne le pensaient. Et ils vont finir par suivre Dajjal, qu'Allah nous protège. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam a interdit aux musulmans d'aller à la rencontre de cette créature. Le prophète dit également que la yakhruju ad-dajjal wa hatta yadhhal an-nas 'an dhikrihi 'ala al-manabir, même les a'imma, même les ulama, les gens de science, ceux qui font les khutab, les prêches lors des vendredis, lors des jumaa, eux aussi à un moment donné, ils ne parleront plus de Dajjal. Viendra une époque, il y aura un concours de circonstances qui fera que les gens ne parleront plus de Dajjal à la fin des temps. Et regardez, il y a une petite anecdote. Ça c'est pas un hadith, ça c'est rapporté par Abu al-Fadl al-Layth, rahimahullah. Apparemment c'est des tabi'in. Il dit qu'ils étaient à Koufa, en Irak donc. Il dit qu'on était dans une assemblée et donc quelqu'un est venu et a annoncé que Dajjal est apparu. Il y a que même à l'époque des tabi'in, il y avait des gens comme ça qui... Il y a des gens qui ont la science et puis il y a des gens qui aiment bien les nouvelles croustillantes. Donc comme à notre époque aussi, beaucoup de gens disent « Mahdi est déjà sorti, Dajjal est là-bas, et c'est cette année, c'est l'année prochaine, je ne sais pas quoi. » Ben, à cette époque, il y avait des gens qui faisaient courir à la rumeur que Dajjal est apparu. Et là, Hudhayfa, radiallahu anhu, est venu dans cette assemblée. Et la personne, le narrateur dit... Je dis à Hudhayfa, هذا الدجال قد خرج. Oh Hudhayfa, je t'annonce que Dajjal est maintenant apparu. فقال حذيفة إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخزف. C'est-à-dire que si Dajjal était venu à cette époque, il aurait suffi, les enfants l'auraient suffi, les enfants l'auraient lapidé avec des pierres, les enfants l'auraient chassé avec les pierres. Ce qui veut dire qu'à cette époque, l'époque des tabi'in, les gens ont un degré de iman et de ilm qui fait que Dajjal ne peut pas les induire en erreur. On est à l'époque des tabi'in, c'est-à-dire la génération juste après les sahabas. Les sahabas sont encore vivants. On est à l'époque de Hudhayfa radiallahu anhu. Il dit que si Dajjal venait maintenant, il n'a pas besoin de lui faire de bataille avec lui. Les enfants l'auraient chassé avec les pierres. C'est-à-dire que le degré de iman était encore fort à cette époque. Mais ça nous fait comprendre quoi la suite. لَكِنَّهُ يَخْرُجُ فِي نَقْصٍ مِنَ النَّاسِ وَخِفَّةٍ مِنَ الدِّينِ. Mais il faut savoir que Dajjal viendra à une époque où les gens auront peu de pratique de la religion et les gens auront peu de science. Par opposition à l'époque des tabi'in, de ceux qui sont après eux, c'est-à-dire vraiment à la fin des temps, on répète encore une fois, une catégorie de mu'mines, ils seront au top dans la foi, ce seront ceux qui seront avec Imam Mahdi, mais la majeure partie des gens seront dans l'insouciance et dans l'ignorance. D'ailleurs, petite parenthèse, nous voyons également même que, par exemple, à Makkah, Madinah, il y a des khutbahs où on parle des signes de la fin des temps, mais la petite anecdote, c'est que quand on parle des signes de la fin des temps, c'est presque volontairement qu'on ne parle pas d'Imam Mahdi. Et ça, on avait expliqué la dernière fois, au début, on avait expliqué une fois que pourquoi on ne parle pas, on évite de parler d'Imam Mahdi dans les lieux saints, parce qu'il y a eu, en 1979, une personne qui s'est proclamée, autoproclamée Imam Mahdi. Cette personne a pris en otage des gens dans le Haram Sharif à Makkah, il y a eu des meurtres, c'était des terroristes, il y a eu un attentat en 1979, vous savez l'histoire où les Égyptiens sont entrés pour libérer les tours, les minarets, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'ils évitent de parler d'Imam Mahdi, de crainte qu'il y ait des gens qui ont peu de science, peu de iman et qui s'autoproclament comme étant le Mahdi. Donc deuxième signe, lorsque Dajjal viendra, les gens seront dans l'insouciance. Maintenant, et ça c'était vraiment le thème du jour, on va prendre encore 10 minutes, Inch'Allah. On en est à 20 minutes, on s'arrêtera à 30 minutes. D'où sortira Dajjal. Alors on sait bien que Dajjal est dans un endroit. Dans cet hadith dit que l'île était près du Yémen, et puis les hadiths expliquent que c'était non plutôt vers l'Orient, par opposition à l'Occident. Mais quand on est au Yémen, on est déjà de l'Orient. Maintenant, en français, on a l'Orient, Proche-Orient, Moyen-Orient. Ça, je ne sais pas l'équivalent en arabe, c'est quoi. Mais c'est Jihatul Sharq, hein, du côté de l'Orient. Les Sahaba étaient de ce côté. Comprenez bien que les Sahaba qui étaient en mer, ils n'étaient pas partis près de l'Amérique du Sud. Ils n'étaient pas partis près du Canada ou de l'Afrique. Ça reste dans la région qui est autour de la péninsule arabe. On pourrait dire jusqu'à la Russie au maximum. Ou à cette époque, les Sahaba, ou les Arabes, hein, ils pouvaient partir avec leur bateau. Donc on sait que Dajjal sera à peu près de cet endroit. Donc logiquement, c'est dans cette région qu'il va apparaître. On va dire qu'il va apparaître officiellement, que sa mission va démarrer. Alors lorsqu'on compare les hadiths, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de l'apparition de Dajjal, et il y a pas mal de lieux géographiques. Mais malheureusement, les lieux géographiques cités dans les hadiths, ce ne sont pas des noms de villes ou de villages, c'est souvent le nom de régions. Et les régions, à cette époque-là, ne sont plus les mêmes qu'à notre époque. Alors, parmi les hadiths, à propos de la venue de Dajjal, lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça m'a obligé de jongler un peu en différents livres, parce que tous les livres n'apportent pas les mêmes commentaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte le hadith d'Abu Bakr radiallahu anhu que « Inna Dajjal yakhruju min ardin bil mashrik » Donc, Dajjal apparaîtra du Mashrik, de l'Orient. Yuqalu laha, une région qui s'appelle Khurasan. Une région qui s'appelle Khurasan. Yatba'hu aqwamun. Bon, jusqu'à la fin du hadith. Donc la région qui est citée dans ce premier hadith, qui est le hadith le plus vague, c'est la région de Khurasan. Et de nos jours, il n'y a pas un pays ou une ville qui s'appelle Khurasan, à ma connaissance. Et en commentaire, l'avantage qu'on a avec les livres de contemporains, c'est que les commentaires sont actualisés. Les commentaires sont actualisés. Il dit que Khurasan est une région du monde qui a des frontières communes avec l'Inde, avec, on va dire, des pays qu'on connaît, avec l'Inde, avec le Sidjistan, avec l'Irak. Donc, on a bien compris, on est dans la région de l'Orient. D'accord, on est dans la région de l'Orient. On continue, d'autres précisions sur la venue, sur cet endroit. Là, on est assez vague. Là, on est en Khurasan, cette région de l'Orient. On va un peu plus loin. Dans un autre hadith, un prophète, alayhi salatu wassalam, dit également « يَخْرُجُ مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْفَهَانِ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْيَهُودِ عَلِيهِمَ التِّيجَانِ » Ça me dit que Dajjal va apparaître dans un endroit qui s'appelle Asfahan. Alors, il y a parfois des pèlerins, il y a des pèlerins qui viennent donc au Hajj, et des Iraniens particulièrement, et on voit parfois écrit, ils écrivent le nom de leur région sur le dos, comme les Turcs, ils écrivent le nom de leur région. J'ai déjà vu écrit Aspahan, A-S-P-A-H-A-N. Est-ce que Aspahan, c'est Aspahan? Wallahu a'lam, je ne m'avance pas. Pour ça, en termes de géographie, ça coince un petit peu. Un endroit qui s'appelle Asfahan, donc là déjà on est un peu plus précis par rapport à Khurasan. Et en commentaire, les savants disent que cette région de Asfahan, dans cette région d'Asfahan, il y a un endroit, un village qui s'appelle Yahoudiya. Pourquoi Yahoudiya? Parce qu'à l'époque, Nabuchodonosor, donc lorsqu'il avait conquis le Beitul Maqdis, il avait emprisonné les gens qui habitaient cet endroit et qui étaient majoritairement d'une certaine confession, et ils avaient envoyé ces gens-là dans la région de Asfahan, et l'endroit où toute cette population a été envoyée, donc c'est cet endroit-là s'est appelé Yahoudiya. D'accord? Donc le village à l'époque, à l'époque de Hadith, s'appelle Yahoudiya, dans la région de Asfahan, qui se trouve dans la zone de Khurasan. On essaie de se retrouver à travers tous ces noms. Également, ce qu'il faut savoir, il y a un hadith qui donne également une indication sur la première ville que Dajjal entrera. La première ville où Dajjal va entrer, c'est clair, hein, le prophète dit, hadith ibn Mas'ud, « Inni la a'lamu awwala ahli abiyatin yafza'uhumu Dajjal antum ya ahl al-Kufa » Ibn Mas'ud, il dit à la population de Koufa, vous êtes les premières personnes qui seront visitées par Dajjal. Et Koufa se trouve où? En Irak. Koufa, je ne sais pas si la ville existe toujours sous le nom de Koufa, ça existe, d'accord, ceux qu'ils ont bien voulu laisser comme miette. Donc, c'est la première ville qui sera visitée par Dajjal. Donc, on voit à peu près, on est dans quelle région, on est dans quelle région du monde. Alors, on pourrait résumer, un tartib, si on fait une fusion entre tous les hadiths qui parlent de ce sujet, de la venue de Dajjal, de l'endroit où il va sortir, On pourrait dire, texte. Alors, on pourrait dire que il y a Asfahan, bien sûr. Il y a d'autres hadiths également. On ne va pas citer tous les hadiths. Il y a un hadith qui dit également qu'il va emprunter un endroit. Il sera dans une région entre Al-Sham et Al-Irak, entre l'Irak et Al-Sham. Et Al-Sham, c'est la plupart des pays arabes qu'il y a en dehors du Moyen-Orient, la Syrie, tout ce qu'il y a autour, hein? La Syrie, la Palestine, donc entre Syrie, Palestine, etc. Et de l'autre côté, les cités, l'Irak. Donc c'est de cet endroit que Dajjal va apparaître. Dans d'autres hadiths, on parle également d'une région qui s'appelle Maru. Yakhruju Dajjal min Maru min Yahudiyyatiha. Hadith, un autre hadith qui est également authentique. Et toutes ces, le nom de ces régions, de ces villages, nous ramène à peu près vers les mêmes pays, vers les mêmes endroits. Et la région d'Asfahan, c'est là que Dajjal se fera vraiment connaître. Et les hadiths décrivent également hatta yakhruju al-yahud li-istiqbalihi wa munasaratihi. Lorsqu'il va aller vers cet endroit, il y aura des gens qui vont lui prêter main forte et qui vont constituer donc ses disciples et son armée. Et ensuite, thumma yanhadiru ala ardi Iran wal Iraq. Ensuite, Dajjal se rendra vers l'Iran. On voit, on est dans la région de l'Iran là. La ville d'Adjal, c'est de la région de l'Iran, de Khurasan. Et vous avez cette région du monde, hein. Bon, je dois gérer trois livres en même temps où il y a différentes explications géographiques qu'on ne maîtrise pas toujours. Dans un des livres, je ne le retrouve plus, on explique que dans cette région, il y a quoi comme ville? Il y a quoi comme ville? Et c'est les villes, à peu près, hein, où sont nés beaucoup de muhaddithines. Où sont nés beaucoup de muhaddithines de la région de Bukhara, de Nassa, de cette région-là. Donc on est dans une région entre les pays balkans, les pays russes et l'Iran. On est exactement à cet endroit. C'est de là que Dajjal va sortir. Donc déjà, ceux qui disent que Dajjal est en Amérique, qu'il est à New York, où il est... Non, Dajjal n'apparaît pas en Amérique, Dajjal n'apparaît pas en Australie, ou n'apparaît pas aux îles Papouasie. Dajjal apparaîtra dans cette région du monde qui est proche de l'Irak, proche de l'Iran, et à la frontière des pays balkans, des pays russes, d'accord? Donc, dans son circuit, dans son parcours, il y a l'Iran et l'Irak, et un endroit, une ville qui s'appelait à l'époque la ville de Al-Kout. Alors là, franchement, il aurait fallu beaucoup de temps pour chercher sur Google Maps l'équivalent en arabe, en français, mais chose que je n'ai pas pu faire. Et ensuite, après avoir visité la ville de Al-Kout, là, il va prendre le chemin, comme on a dit tout à l'heure, entre la Syrie, la Palestine et l'Irak. Et quand il passe, enfin, je vous ai expliqué plein de choses, il y a une carte en plus, je vous ai expliqué plein de choses, il va faire ce trajet, là on a l'Arabie Saoudite, à Saoudia. On peut, ceux qui peuvent le voir, en plus ils ont éteint les lumières. Il va sortir de cette région. Vous voyez, il va, là où il y a le point, c'est écrit Harat, Khurasan, Kirman, Bundar Abbas, Larastan. Bon, c'est des régions qui n'existent plus de nos jours. C'était à l'époque, hein, où les livres ont été écrits. Mais là, quand même, on voit Téhéran. Tahran, Kashat, Qazwin. Qazwin, ça existe encore. Hein, Qazwin, c'est en Iran, ça, d'accord? Etc. Donc, on voit, là, on a l'Iran. Là, je sais pas ça équivaut à quoi en français dans la nouvelle carte, mais on est entre l'Iran et les pays russes, d'accord? Et Dajjal va sortir de là, il va faire son parcours hein, jusqu'à l'Irak, l'Iran, les pays entre la Syrie, la Palestine et l'Irak, d'accord? Jusqu'à arriver où? L'objectif de Dajjal, c'est quoi? C'est d'aller vers les terres saintes, d'aller vers Haramain. J'ai perdu la page. Il va vers le Hijaz. Et le Hijaz, c'est quoi? C'est la région d'Arabie Saoudite où il y a Jeddah, Mecca et Medina. Et après, là on saute l'étape du Hijaz parce qu'on va revenir par la suite. Lorsqu'il aura fini, en fait, l'étape du Hijaz sera un échec pour lui parce qu'on va voir qu'il ne pourra pas entrer dans les villes saintes. Arrivé au niveau du Hijaz, il sera chassé. Dans cet hadith, il dit qu'il sera chassé vers le Sham. Alors peut-être que Sham c'était avant l'Irak, wallahu alam. Et enfin, la dernière étape, thumma al-khuruji 'ala al-'alam. Ensuite, Dajjal va parcourir les autres pays. Donc il commencera par ce circuit et à partir du Hijaz, lorsqu'il sera rejeté au niveau du Hijaz, là Dajjal va aller dans toutes les régions du monde, dans tous les pays pour propager sa mission. Et dans d'autres kutub, dans d'autres livres, on donne un peu plus de précision. Il dit que tout d'abord, lorsqu'il va à la région, il apparaît à Khurasan, d'accord? Lorsqu'il est dans la région de Asfahan, c'est là qu'il va constituer son armée. 70 000 personnes qui vont se joindre à Dajjal, d'accord? Et là, ensuite, il va aller vers la région de Sham, et c'est dans la région de Sham qu'il y aura la grande bataille entre Dajjal qui sont armés, bien sûr, et les musulmans qui auront comme amir, qui ça ? Qui auront comme amir l'imam al-Mahdi. Ensuite, il va aller vers la Palestine, et les gens d'une certaine communauté qui seront dans cette région vont renforcer un peu plus son armée. Et puis, il nous reste la dernière étape, lorsqu'il arrive près des Terres Saintes, lorsqu'il arrive près de Mecca et de Madina. Ça, on va garder un chapitre spécial parce qu'il y a beaucoup de descriptions. Hein, on va garder pour une prochaine fois, Inch'Allah. Lorsqu'il arrive près de Mecca et Madina, là, les anges sont là, vont le chasser, vont l'orienter vers d'autres endroits. Les hadiths écrivent que lorsqu'il arrive près de la montagne de Uhud, il va, on va pas dire admirer, mais il va regarder l'endroit où est Madina Munawwara. Il va dire que ça, c'est le château de Muhammad. Ça, c'est, en parlant du château, on parle de Masjid Nabawi, ça c'est le palais de Muhammad. Et à la limite de Uhud, il sera chassé, où il y aura des malaïkas qui sont postés par l'ordre d'Allah, qui vont l'empêcher d'accéder à ces deux endroits. Et c'est à partir de là, lorsqu'il sera chassé du Hijaz, qu'il va commencer sa tournée, on pourrait dire, dans toutes les autres régions du monde. Donc ça c'est en gros les endroits où l'endroit où il va apparaître et les endroits où il va passer en premier jusqu'à les terres saintes, jusqu'à le parcours vers les autres régions. Et on terminera avec un point, bon, c'est pas énorme. Il y aura trois signes avec lui lorsque Dajjal va apparaître auprès de toutes ces populations. Il y aura trois choses évidentes que les gens vont voir avec Dajjal. La première de ces choses, يركب حمارا قويا سريعا. Dajjal va apparaître, il sera sur une monture, il sera sur un âne. Il sera sur un âne, et les hadiths décrivent حمار أقمر أهلب, c'est-à-dire أي كثير الشعر. C'est un âne qui aura des longs poils. Alors dans le hadith de Abu Hurairah, on dit que يخرج دجال على حمار أقمر, et dans les commentaires, les ulama disent que فوجهه أحسن حالا من وجه راكبه. Je répète, وجهه, c'est-à-dire le visage de l'âne, ahsanu halan min wajhi rakibihi. Le visage de son âne sera plus beau, plus resplendissant que celui qui le monte. C'est-à-dire que l'âne sera plus beau que le visage de Dajjal. Donc la première chose, Dajjal, il sera sur un âne. Pourquoi? Wallahu a'lam. Allah ta'ala a décidé que les choses se passeront de la sorte. Ça, c'est un signe. Deuxième signe, Dajjal aura avec lui des shayatins. Dajjal aura avec lui des shayatins qui vont s'adresser aux gens dans toutes les langues. Le hadith d'Abu Sa'id, radiyallahu anhu, le prophète dit ma'ahu min kulli lisan, c'est-à-dire ay min kulli lugha. Il y aura des shayatins qui auront la maîtrise de toutes les langues, parce que Dajjal va aller dans toutes les régions parler à toutes les populations. Wa ma'ahu suratul janna khadra yajri fi al-ma. Et puis il y aura, ça on verra par la suite, les miracles de Dajjal, et les gens auront la vision du paradis à un endroit et également la vision de l'enfer, et cela, ce sera un des signes qu'il aura pour essayer d'induire en erreur les gens. Et ce qu'on retient donc, c'est yab'athullahu ma'ahu shayatin tukallimu nas. Les shayatin vont aider Dajjal. Quoi de plus normal que les shayatin aident Dajjal? Et les shayatin vont s'adresser aux gens pour faire passer le message de Dajjal dans toutes les langues possibles. Et troisième signe, là on parle des visites de Dajjal. Lorsque Dajjal va dans un endroit, il est sur telle monture, il y a des shayatin qui l'accompagnent, mais avant que Dajjal entre dans un endroit, hadith d'Abu Sa'id dit que وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى كلما خرج من قرية دخل أوائله فإذا خرج من القرية دخلها أول أصحاب الدجال. Il y aura deux personnes, hadith rapporté, c'est pas dans les Kutub Sitta, mais c'est rapporté par Abu Ya'la et Al-Bazzar. Donc on le cite sans pouvoir dire exactement quel est le degré d'authenticité du hadith. Cette version dit qu'il y aura deux personnes qui passeront dans chaque endroit où Dajjal va visiter pour mettre en garde les gens. Attention, cet homme qui va venir, c'est un menteur, c'est Dajjal, etc., etc. Et lorsqu'il quitte, c'est là que les premières personnes, les premiers composants de l'armée de Dajjal entrent dans cet endroit. Donc ça c'est, je pense qu'on a vu aujourd'hui donc deux signes, la famine avant la venue de Dajjal, l'insouciance des gens, le peu de pratique et le peu de science religieuse, les régions, les zones géographiques, et trois signes qu'il y aura avec Dajjal à chaque fois qu'il va se déplacer d'un endroit à l'autre. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Et pour la prochaine fois, Inch'Allah, ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer d'expliquer, ce sont les miracles qu'Allah Ta'ala accordera à Dajjal. Qu'Allah nous permette de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.